Bonjour, je m'appelle Éric Veillette, je suis chercheur en archives judiciaires et aussi technicien en documentation de formation. Je suis également auteur parce que j'ai écrit certains livres sur différentes affaires qui ont marqué l'histoire criminelle du Québec. Et ça fait longtemps que, je ne suis pas parmi les plus connus, évidemment, le métier de chercheur, si on peut dire, est assez discret. Mes livres aussi, j'ai voulu le faire surtout parce que, je veux informer le public. C'est pas tout le monde qui a la capacité, ni le temps surtout, de lire des milliers de pages pour se faire une idée sur un seul procès, par exemple. Donc, voilà, moi, je partage ma passion et tout ça, donc c'est pas avec ça qu'on est capable d'en vivre, mais j'aime le partager, évidemment, et j'ai créé pour ça aussi, en grande partie, mon blog Historiquement Logique en 2010, et que je partage beaucoup de mes découvertes et tout ça. Donc, c'est sûr que qui dit chercheur et qui dit chercheur qui fait des découvertes, on s'en fait voler à l'occasion. Moi, je partageais mes idées et mes façons de faire assez ouvertement et tout ça. Donc, des fois, ça nous met des petites épines dans le pied. Nous allons aborder dans cette série de balados ensemble, parce que je dis ensemble, je pense que vous êtes là. Donc, je vous compte parmi mon entourage, si on peut dire. Nous allons aborder le phénomène des crimes, ou plutôt des homicides non élucidés. Parce que, il y a beaucoup, beaucoup de types de crimes. Il faut être clair aussi dans la terminologie, dans les mots qu'on utilise. Parce que les crimes non résolus, crimes, premièrement, c'est très large. Ça peut être du vol à l'étalage jusqu'au meurtre. Alors, ici, on va s'en tenir aux homicides seulement. Avant de commencer, tant qu'à être dans la terminologie, pourquoi ne pas se demander justement qu'est-ce qu'un homicide non résolu ou non élucidé? C'est quoi exactement? Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à la question? Là, vous allez me dire, il est ben niaiseux, lui. Il sait pas c'est quoi. Mais ça peut quand même porter à confusion et je vais vous montrer pourquoi. Si, par exemple, on tombe sur un cas d'une jeune fille qui a été retrouvée morte, dénudée, dans un boisé. Elle a été violée, tout ça. C'est un cas presque classique. Automatiquement, il y a plusieurs personnes qui vont penser à un crime sexuel et de fil en aiguille au meurtre en série, donc à un tueur en série. Mais évidemment, avant de penser tueur en série, il faut voir d'autres pistes. Parce que, premièrement, les homicides, c'est les crimes les plus rares, parmi tous les types de crimes. Et ensuite, parmi les homicides, ceux qui sont commis par des tueurs en série sont encore les plus rares. Sont très, très peu nombreux. Là, je pense qu'on parle de moins 1%. En tout cas, pour ici, pour ce qui est du Québec, en tout cas, ça, c'est les chiffres là, que j'ai. Alors, voilà. Donc, le cas que je viens de soumettre, c'est assez clair. Une jeune fille retrouvée sur le bord de la route, tout ça, c'est clair que c'est non résolu si on trouve aucun indice, si on ne trouve aucun suspect, si ça ne débouche sur... si l'enquête ne débloque pas, qu'il n'y a jamais de procès, jamais d'accusé, tout ça, aucun suspect même. Il y a des fois qu'il y a certains suspects, on pense que ça peut être eux autres, puis on manque de preuves. Mais dans certains cas, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, pratiquement aucun indice, pas d'ADN et tout ça. Donc, il y a des cas vraiment qui sont insolubles. C'est ainsi, c'est pas de la faute aux policiers, c'est pas de la faute à la victime, c'est pas de la faute à personne, c'est comme ça. Bon, ce cas-là, c'est assez clair que c'est un cas non résolu. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir d'autres types de cas non élucidés. Par exemple, on trouve un suspect, on lui fait un procès, mais il est acquitté. Donc, s'il est acquitté, notre système dit que, premièrement, on n'a pas le droit de le poursuivre une deuxième fois, ça, OK, mais il est officiellement innocent. Il a le droit à sa vie privée, tout ça. Et ça se peut aussi que ce soit vraiment pas lui, hein, que ce soit lui. Il faut respecter le verdict d'acquittement. Qui a été rendu dans peu importe les conditions. Mais on m'a déjà contacté pour participer à un documentaire, justement, sur une affaire non élucidée. Je la nommerai pas. Mais c'était un cas comme ça qu'il y a une personne qui a été acquittée, et acquittée dans des circonstances assez spéciales. Puis on m'a dit « qu'est-ce que j'en pensais? » Eh bien, j'ai dit « j'en pensais que cette personne-là est innocente, elle a été acquittée. » Et la recherchiste a été assez surprise. Donc, je me suis dit « pourquoi qu'elle est surprise? » Parce qu'elle s'attendait à ce que je lui dise que c'est lui absolument. Quand quelqu'un est acquitté, bien, il est acquitté. Il faut le respecter, le verdict. Donc, si elle avait une autre idée en tête, ben peut-être qu'elle partait d'une façon pas très objective. Et d'ailleurs, le réalisateur de ce documentaire-là, lors d'un tournage, m'a expliqué carrément en face à face qu'il pouvait pas être objectif. Pardon. Les genoux m'ont ramolli, désolé. Mais quand on fait un documentaire, dans ma tête à moi, ou naïvement, je pensais qu'on était que l'objectif, c'était d'être justement objectif, d'essayer au moins d'être impartial le plus possible, de présenter les pistes honnêtement. Donc, je me suis aperçu que, bon, bref, les documentaires valent ce qu'ils valent. Donc, souvent, pas grand-chose. J'y reviendrai peut-être plus tard. Il y a eu quand même des excellents documentaires, parfois même outre-mer, au Québec. Je veux pas être méchant, mais ils sont difficiles à trouver. Les documentaires qui présentent les faits de façon vraiment impartiale et qui laissent au public le soin de juger lui-même. Donc, c'est ça. C'est ce que je faisais par écrit dans mes livres. Ça, c'est Maître Clément Fortin, malheureusement, qui est décédé en 2020, qui m'a appris ça. C'est-à-dire, quand on étudie un procès, c'est sûr que je peux émettre mon opinion en conclusion, mais si on veut que le lecteur ait la possibilité d'avoir une possibilité de juger ou d'avoir son opinion lui-même, ben c'est de le laisser avec un résumé des témoignages ou de le mettre dans la peau, comme s'il était dans la peau d'un des 12 jurés. Donc, il assiste au procès et tout ça, donc il absorbe les preuves sans nécessairement un commentaire de dire « Ah, ben ça, c'est une preuve, il est coupable. » On n'a pas besoin de penser à sa place, là. Le lecteur est capable de faire sa propre idée. Donc, on vient de voir qu'il y a un autre type de cas non résolus, c'est-à-dire les cas qui a eu des acquittements. Donc, voilà, il faut faire attention aussi, là, parce qu'il y a les gens mélangent encore un peu tout, hein. C'est récemment encore, moi je trouve ça d'une tristesse épouvantable. À peu près 50% des gens qui sont illettrés au Québec, illettrés pas nécessairement, qui sont pas capables de lire un texte. Ils sont capables de lire, mais sont pas capables de le comprendre, ou quand ça s'étend trop sur quelques paragraphes. Donc la compréhension de texte, c'est à peu près une personne sur deux qui est capable de le faire. Donc, quand ça devient des causes très compliquées, j'ai déjà connu aussi des gens qui se sont fait connaître dans des balados ou qui ont une certaine notoriété aujourd'hui, qui m'ont dit qu'ils ne s'attaquaient pas à des causes trop complexes, comme j'ai déjà fait, parce que ça les mêle et qu'ils ne comprennent plus rien. Donc, voilà, c'est triste quelque part. Donc, tout ça, je pourrais en parler longtemps sur mes expériences. Alors, mes expériences avec le milieu documentaire ou, bref, du non élucidé. On se le cachera pas, c'est de plus en plus populaire. Moi, je dirais que la tendance a commencé peut-être il y a 20-30 ans. Mais bon, c'est ça, je veux pas m'attarder là-dessus. Moi, qui le seul but au début, qui était de fouiller dans les archives pour avoir un portrait criminel du Québec. Évidemment, mon but premier, c'était la Mauricie, mais ça s'est étendu au Québec. Veux, veux pas. Et puis, je me suis limité au Québec parce qu'à un moment donné aussi, on devient habitué à nos outils de recherche et c'est quand même suffisant de rester dans les frontières du Québec. J'ai assez de matière pour m'amuser jusqu'à ma retraite et au-delà de ça. Il y a un autre phénomène que j'ai remarqué parce que j'analyse beaucoup. Parfois, moi, je m'assieds devant un documentaire. J'essaie de le faire de moins en moins, mais ça m'est déjà arrivé de m'asseoir devant un documentaire avec un pad et un crayon et de prendre des notes. Donc, voilà. Et j'ai déjà constaté, c'est-à-dire je constate même encore qu'il y a beaucoup de... qui s'improvisent, là. Des fois, c'est des journalistes qui viennent de je sais pas trop où. Ils vont s'attaquer aux phénomènes non résolus. C'est très louable, je le dis, c'est merveilleux parce qu'ils veulent faire quelque chose. Mais ils s'attaquent à des cas non résolus alors qu'ils n'ont aucune expérience dans le domaine des enquêtes, comme des policiers chevronnés, par exemple. Donc, ils s'attaquent à des cas non résolus avant même de comprendre ou d'avoir lu des dossiers qui ont été résolus pour voir comment, justement, ça se résout, une enquête. Donc, c'est un peu le phénomène à l'envers, là. Tu sais, faut voir. C'est comme s'attaquer aux ovnis puis de penser déjà que ce sont des ovnis ou des aides qui viennent d'ailleurs. Ben non, faut regarder les phénomènes avant. Faut étudier la science. Faut voir qu'est-ce qui peut expliquer ça. Et après ça, dans les cas qui vont rester non, qui sont pas expliqués, ben là, on verra. On se tournera vers autre chose. Mais c'est un peu fonctionnel à l'envers, je trouve. Et évidemment, ben, c'est des gens qui, pour la plupart, même s'il y en a qui se disent des fois, anciens policiers, qui n'ont pas toujours les talents pour enquêter. L'esprit critique, malheureusement, ça se développe. C'est pas acquis. Je prétends pas l'avoir plus qu'une autre, mais à en regarder certains, des fois, on se dit c'est pas dur les battre. Fait que on va revenir à nos dossiers et j'espère que vous allez apprécier. Sincèrement, les cas non résolus, quand même, c'est passionnant. Je prétends pas faire des enquêtes dans le but d'en résoudre, loin de là. C'est que le phénomène est là, et on peut pas se le cacher. Et bon, on va voir aussi ensemble là, qu'est-ce qui fait aussi que les informations en rapport avec les cas non élucidés sont plus fragiles. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à... j'aurai l'occasion d'y revenir là, certainement, parce que bon, il y a beaucoup moins d'informations. Si on prend par exemple un procès, un énorme procès, célèbre ou bon, qui a été médiatisé, si on l'étudie, on va avoir beaucoup de documents, mais vraiment beaucoup, mais on va en avoir suffisamment pour faire un livre ou comprendre tous les détails de l'histoire. On n'aura même pas besoin de fouiller dans les journaux, on n'aura pas besoin d'écouter M. Untel qui a son opinion sur le sujet. Tout est là, toutes les preuves sont là, tous les faits sont là, ils vont avoir été recueillis en plus par des professionnels de l'enquête, donc tout est là. Ce qui n'est pas le cas dans les cas non résolus, et en particulier ceux qui ont les cas qui n'ont pas eu de procès. Donc, bien souvent, on se retrouve avec en main l'enquête de coroner, 2-3 articles de journaux, et c'est à peu près tout. C'est pour ça qu'on a tendance à utiliser la méthode journalistique, bien souvent, c'est-à-dire de fouiller un peu partout, à gauche, à droite, d'aller voir M. Untel, pas les descendants, mais ceux qui ont connu la victime, si, ça, ta, 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 ta. Mais bien souvent, pour quelqu'un qui était formé toute sa vie en documentation, ce sont des sources beaucoup moins fiables. Déjà, en partant, les journaux qui sont contemporains aux événements, des fois, font des erreurs, donc ça arrive souvent. Sur l'âge des victimes ou des personnes, c'est fréquent. N'importe quel chercheur en généalogie va vous le dire. On va dire « Ah, la victime avait 35 ans. » Dans l'autre journal d'à côté, la même journée, ils vont dire qu'il avait 38 ans. Donc, c'est des erreurs assez fréquentes pour les journaux. Mais on peut quand même leur pardonner un peu là, certaines choses. C'est quand même des sources assez fiables pour l'ensemble de ce qui a été dit à l'époque du crime. Que ce soit fiable ou non, c'est quand même important aussi d'avoir les fausses pistes ou d'avoir des pistes qui ont été abandonnées, si on veut. Mais voilà. Mais c'est sûr que plus on fait un travail de type journalistique, c'est-à-dire aller chercher, comme surtout si on s'attaque à un cas, par exemple, de 30 ans plus tard, si on va chercher M. Untel, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, son souvenir s'est modifié. Tous les documents, autrement dit, qui n'ont pas été produits à l'époque des faits, valent beaucoup moins. Il faut vraiment s'en méfier, parce que ça peut nous porter dans une mauvaise piste et tout ça. Donc, vous avez juste à vous demander aussi, c'est quand la dernière fois que un podcast a permis de résoudre un crime ou que, bon, c'est souvent les gens vont laisser croire que c'est tendancieux. ils vont laisser croire que c'est plausible de résoudre un crime parce que pourquoi? Ben, c'est vendeur. On va chercher des codes d'écoute avec ça. On ne se le mentira pas. Mais moi, je vous le dis tout de suite, j'en veux pas de code d'écoute. Tu clair? J'en résoudrai pas d'affaires. Mais bon, on se garde toujours une porte de sortie. Si ça peut réveiller certaines personnes, bon, on sait jamais. Moi, je vois ça plus comme notre patrimoine historique. Parce que si quelqu'un se manifeste, moi, je pense pas que je vais résoudre une affaire, mais ça va apporter, comme un cas historique, par exemple, ça va apporter des détails de plus qu'on va pouvoir colliger et laisser dans le dossier. Puis bon, on va avoir plus de choses à raconter. Après, ça va être plus précis. Mais pour ce qui est de résoudre des crimes, surtout après tant d'années, c'est pratiquement impossible. Ça arrive, là. Mais on se raccroche souvent à la nouvelle qui est unique et qui est rare. Donc oui, ça tient. Tu sais, l'espoir, hein, c'est assez dangereux aussi. L'espoir, on se raccroche souvent au demi-pourcent. Alors que, règle générale, ça va dans l'autre sens. Donc, pour la première émission de Non Élucidé, ben, c'est assez simple, hein? On va y aller dans l'ordre chronologique, parce que la chronologie aussi, on va l'apprendre, si vous ne le savez pas déjà, on va vous le répéter. La chronologie dans une enquête a quand même beaucoup, beaucoup, mais beaucoup d'importance, parce qu'il y a des faits qui apparaissent à des moments précis, qui finissent par nous dire « Oups! » Peut-être que cette personne-là a menti. C'est arrivé dans certains cas que j'ai étudiés. Donc, c'est pour ça que la chronologie vraiment est importante, savoir quand, à quel moment cette preuve-là est apparue. Tout ça, là, tu sais, c'est quand même important. On va en avoir des exemples là-dessus. Donc, qui dit chronologie dit historique. Évidemment, là, on arrive. Moi, je vais loin. Je retourne en Nouvelle-France. Pour avoir les premiers cas non élucidés. Mais il y a un petit bémol que je veux ajouter parce que c'est pas tout à fait clair. Là. Il y a des cas non élucidés qui se sont produits à l'époque des guerres avec les Iroquois, ce qu'on appelait les Indiens, les méchants Indiens à l'époque, et qu'on n'a plus le droit de dire ce mot-là. Il faut dire maintenant autochtones. Bon, voilà, c'est dit. Alors, il y en a qui considèrent que ça compte pas, c'est aussi ridicule que ça. Mais c'est vrai que c'est un autre contexte. Dans un contexte de guerre, si on veut, ben oui, il y a des homicides qui se produisent, il y a des crimes et tout ça. Mais, puis il n'y avait pas nécessairement des personnes pour enquêter. Le métier d'enquêteur n'existait pas. Ça s'improvisait un petit peu, tout ça. Les autorités, souvent, c'était les militaires là, qui enquêtaient, mais qui se rendaient sur les lieux, puis qui faisaient ça un peu à la va comme je te pousse. Mais si on met ça de côté, on y va vraiment dans un ordre chronologique, ben le premier crime, le premier meurtre non élucidé à avoir été commis en Nouvelle-France, ben ça aurait été en 1625, à la fin mai. C'est quand même précis. Ben, en tout cas, on va avoir des cas plus précis que ça tantôt, même avec l'adresse où ça s'est produit. Pour les curieux et curieuses qui veulent aller voir sur place, ben vous irez. Pas de problème. Si vous voulez m'envoyer des photos après de ces places de Sainte-Écrème-là, peut-être qu'il y a des amateurs qui collectionnent les vraies Sainte-Écrème au Québec, les lieux en tout cas. Parce que les Sainte-Écrème, ben, souvent, ne durent pas longtemps. Là. Juste le temps de les étudier, tout ça. Mais bon, la victime, en plus, il y avait deux victimes pour le premier cas. Nicolas Vielle et Hansik, comme le quartier Hansik à Montréal. Lui, c'est un petit Amérindien qui devait accompagner, je pense, le père Nicolas. Et quand ça s'est produit, ils étaient en direction de Québec. Puis ça s'est produit au saut de la rivière des Prairies. Ils auraient été attaqués par trois de ses accompagnateurs, donc des traîtres, se sont tournés contre lui. Donc, voilà, alors qu'ils étaient à bord d'un canot. Le corps de Nicolas Vielle aurait été repêché seulement le 25 juin 1625 à Saute-aux-Récollets. Donc, ça n'a jamais été résolu, cette affaire-là. Mais là, je veux juste mettre en contexte, peut-être un petit peu plus pour les jeunes qui ne savent peut-être plus c'est quoi la religion. Entre vous, Mais à cette époque-là, ben, Nicolas Viel faisait partie des ce qu'on a appelé, surtout à l'époque de mon père, là, qui me racontait ça quand il était à l'école, la fameuse histoire des saints martyrs canadiens. Eh bien, oui, c'est ça. Nicolas Viel en faisait partie. Ce qu'on appelait les saints martyrs canadiens, c'est ceux qui sont décédés, c'est-à-dire des prêtres, là, des curés, des missionnaires, qui partaient, ça veut dire, ils étaient déjà en Nouvelle-France, mais partaient dans le bois, essayer d'évangéliser, de donner, distribuer la bonne nouvelle aux Amérindiens, et blablabla. Bla, bla. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, on le sait, il y a certaines communautés autochtones qui ont embrassé plus rapidement que d'autres la croyance, si on veut, chrétienne. Il y en a qui ont accepté ça, puis d'autres, ben pas du tout. Ils l'ont tellement pas accepté qu'ils en ont fait des scalps. Alors, voilà, ça jouait dur à l'époque. Ensuite, si on se transporte toujours dans ce même contexte de guerre-là, avec principalement les Iroquois, un deuxième cas non élucidé est survenu le 29 septembre 1642. C'était un autre prêtre, René Goupil, qui... il a été assassiné lui aussi, là, alors qu'il était encore une fois en canot. Et lui, il était en compagnie de Guillaume Couture et Isaac Jogg, qui ont été tués, eux autres, dans les. Ils ont été capturés, puis ont été torturés et assassinés dans les jours qui ont suivi. Donc, tout ça, juste pour faire une parenthèse, ce sont ce qu'on appelle. Parce que j'ai démarré plutôt. Et boy, il faut que je fasse attention à mon français. Et j'ai démarré un projet il y a plusieurs années qui était un peu loufoque ou un petit peu inatteignable, mais tranquillement, ça prend forme. C'est-à-dire le dictionnaire des homicides commis au Québec, et je voulais en répertorier le plus possible. Puis en même temps de faire ça, je voulais aussi les classifier, les types d'homicides. Et ces homicides-là qu'on voit là, actuellement, tous ces prêtres-là qui ont été assassinés, se classe dans la catégorie des homicides cautionnés par un groupe. Parce que c'est sûr que, ce sont des Iroquois qui se mettent ensemble et pour assassiner dans un même but. Donc, eux autres, c'était contre la religion. Donc, c'était aussi même une sous-catégorie là, extrémiste religieux. Parce qu'ils n'en voulaient pas, eux autres, de ces croyances-là. Et mais ils ont quand même joué dur. Tu sais, juste au lieu de leur dire non, ils ont tué. Voilà. Parmi les saints martyrs canadiens, il y en a un autre aussi qui s'est fait zigouiller la patate en 1648, le 4 juillet. Il s'appelait Antoine Daniel. Quand ça s'est passé, dans son cas à lui, les Hurons s'étaient absentés pour la traite. Et les Iroquois, les méchants Iroquois, ils en ont profité pour attaquer le village de Saint-Joseph et de Saint-Michel. Ils auraient fait, cette journée-là, 700 prisonniers. Puis, ils en ont profité pour se débarrasser d'Antoine Daniel aussi. Évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est possible qu'il y ait eu d'autres victimes, mais les recherches me poussent à... Je peux pas nommer d'autres noms ni d'autres dates. Alors, voilà. En 1649, le 16 mars, Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand deviennent aussi, sont assassinés dans le même contexte. Puis, ça sera non élucidé, évidemment. Les homicides cautionnés par des groupes, c'est souvent les plus difficiles à résoudre. Parce que, ça, c'est de savoir qui l'a commis. Si le groupe n'accepte pas de parler, on ne le saura jamais. Mais heureusement, dans l'histoire, là, c'est sûr qu'on est au début. Là, c'est un peu chaotique. Là, Québec, la ville de Québec est toute récente. C'est les homicides cautionnés par un groupe sont quand même rares. C'est spécial, c'est arrivé dans le contexte là, avec les Iroquois. Après ça, je vous dirais grosso modo, pour avoir travaillé sur mon dictionnaire des homicides, à l'époque des Patriotes aussi, dans les années 1830 à peu près, il y a eu d'autres homicides qui se classe sous cette bannière-là, donc cautionné par un groupe. Et on pourrait plus récemment dans notre histoire parler du FLQ, de la crise d'Oka. C'est comme un groupe qui sont dans la même idéologie, qui commettent des crimes. Et c'est difficile à ce moment-là, d'éclaircir tout ça, parce que là, à cause du nombre d'accusés, il y a même eu des accusations des fois de hold-up là, à 3-4 accusés, puis c'était difficile de savoir qui avait tiré sur qui. Donc, tu sais, je pense que vous comprenez, rendu là. Ensuite, le 7 décembre 1549, il y a Charles Garnier, lui aussi, qui est un prêtre jésuite, qui a été tué, voilà, par encore les autochtones. Et je vais parler d'un dernier qui, lui, a été assassiné le 8 décembre, donc le lendemain, 1649. Il s'appelait Noël Chabanel. Maintenant, si on exclut tous les homicides non élucidés que je viens de nommer, qui ont été commis dans le contexte de la guerre avec les Iroquois, là, on en vient plus à des crimes qui sont commis dans un contexte plus normal, je dis bien, donc en société. Donc, c'est pour ça qu'il y a un auteur, un chercheur du nom de Raymond Boyer, qui a dit que le premier crime non élucidé a été commis en 1685. C'est celui qu'on va aborder maintenant. Donc, voilà, c'est faut comprendre dans ce contexte-là. Là. Je ne veux pas dire que avec les Autochtones, que ça comptait pas. Je suis encore indécis de savoir qui est le premier. Est-ce que c'est Nicolas Viel qui a été vraiment le premier cas non résolu? Ou si ça va être celui de Jean Aubuchon dit l'Espérance, c'est-à-dire celui qu'on va voir maintenant. Donc, le 3 décembre 1685, Jean Aubuchon dit l'Espérance a été retrouvé assassiné dans son lit. Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas comment. Y a-t-il été poignardé? Y a-t-il été tiré? Est-ce qu'il a été ligoté, empoisonné, battu? Mangé par une chèvre, une vache, on ne le sait pas. On ne le sait pas pantoute. Fait que il n'y a pas de cause, évidemment, il n'y avait pas de coroner à l'époque, pas d'institut médico-légal, donc il n'y a pas eu d'autopsie, j'imagine. S'il y a eu des autopsies, ben c'était par un médecin qui voulait pousser le zèle de sa job un peu trop loin. Mais c'est ça, c'est très malheureux parce que ça aurait pu nous aider. Premièrement, à classifier le crime, savoir dans quel type de crime que c'était. Pas nécessairement non plus. Mais bon, ça aurait pu nous donner un indice. Parce que dans cette affaire-là, il va y avoir deux accusés. Puis c'est pas simple. Bon, premièrement, sans être historien accompli, Jean Aubuchon dit l'Espérance. On va l'appeler Monsieur Aubuchon, ça va être correct. Il était quand même assez connu à cette époque-là comme personnage historique. Dans les livres, on voit son nom à l'occasion. Il possédait beaucoup de terres. Il en avait possédé aussi... parce que là, je veux juste revenir là-dessus. Son crime, il a été trouvé mort à Montréal. Mais il y avait des terres un peu partout, même dans la région de Trois-Rivières, là, qui est quand même une vieille concession. Trois-Rivières, c'est très ancien aussi. Au Cap de la Madeleine aussi, il avait eu une terre là, donc il était assez connu. Il brassait des affaires, comme on dit. Il brassait tellement d'affaires qu'il en aurait fait avec le célèbre Dolore des Ormeaux. Tu sais, ce ticoune-là là, qui s'est attaqué aux Indiens, puis que finalement il est mort parce que le baril de poudre avait rebondi sur une branche, là. Ben, c'est ça, voilà. C'est lui. Pas Mr. Bing, Monsieur Dolore des Ormeaux. Et bon, il a été condamné aussi, M. Aubuchon, si on revient à notre ami M. Aubuchon, il avait déjà été condamné pour adultère. Donc, ça va de l'air d'être un bon vivant, finalement. Donc, on revient à Aubuchon, qui est dans son lit. Il est raide mort, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas comment s'il a été étranglé ou quoi que ce soit, ou s'il a juste été surpris de voir que Netflix augmentait ses tarifs. Mais sa femme, Marguerite Sédillot, qui avait 42 ans, et leur fils de 24 ans, ont aussitôt pointé du doigt un personnage qui s'appelait Jacques Pirot. Ils ont dit « C'est lui qui a tué M. Aubuchon, qui a tué mon mari. C'est lui le pas fin. » Par contre, la situation s'est retournée contre eux parce que Pirot a dit « Non, 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 c'est pas moi qui ai assassiné M. Aubuchon, c'est vous, madame, vous avez assassiné votre propre mari. » Alors là, les deux s'accusaient l'un l'autre. Qui était vraiment le coupable? Évidemment, il y a eu des poursuites judiciaires, on a étudié l'affaire, on peut dire, je ne sais pas sincèrement si on peut parler de procès, mais le 30 octobre 1686, donc plus ou moins un an plus tard, ben, tout le monde a été acquitté. Et de un, pour les, je dirais pas les complotistes, mais ceux qui ont tendance à juger le système judiciaire du passé puis dire que c'était pas bon puis que c'était tout croche, ben, de un, ils ont été acquittés tous les deux, donc c'était mieux de respecter la fameuse clause qu'on dit aujourd'hui, mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Donc voilà, fait que quand même, on sait que c'était pas le on n'accusait pas pour rien. Donc, déjà là, en partant, je me dis, le système, il n'est pas pire. Mais là, les deux acquittés, on se dit, bon, maintenant, c'est qui? C'est qui des deux? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Parce que s'ils ont été acquittés tous les deux, évidemment, on ne sait pas les preuves, les procès à cette époque-là, on n'avait pas encore le système britannique. Donc, c'était ça. Donc, on n'y en est pas... Il n'a pas survécu grand-chose à ça. Ce qui est malheureux, si c'est vrai, le fils de Aubuchon, Jean Aubuchon, il aurait tellement souffert de ces procédures-là, de s'être fait accuser à tort, si on veut. Peut-être qu'il a été torturé, je ne sais pas, là, je ne vais pas m'avancer parce que ça n'a pas été mentionné, mais des fois... ben lui, il est décédé. Il serait décédé de ça en 1687, donc 2 ans plus tard. Alors, il a trouvé ça dur, le pauvre Tipit. Et pendant que le fils d'Aubuchon décédait, eh bien, Pierrot, lui, continuait de réclamer de l'argent à la veuve Aubuchon parce qu'il disait, bon, c'est à cause d'elle que j'ai dépensé tant d'argent à me défendre parce que c'est elle qui m'a accusé du meurtre de son mari et tout ça. Et bon, finalement, il a continué durant quelques années à essayer de la poursuivre, mais il n'a jamais réussi. En tout cas, il n'y en a pas de traces dans l'histoire. Et il a fait plusieurs plaintes, puis malgré tout ça, bon, ben à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il est devenu, M. Pillerault. Selon Raymond Boyer, je vais citer souvent Raymond Boyer, mais j'y reviendrai. Il a écrit un livre dans les années 60 qui est quand même une référence là, pour tout ce qui est crime et châtiment dans ces années-là. Tout ce qu'il nous dit, lui, c'est que la dernière trace de Pillerault dans les archives date de 1692, après son père, sa trace. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien... le meurtre de M. Jean Aubuchon, dit l'Espérance, ce serait le premier cas non élucidé. C'est resté comme ça, malheureusement. On ne sait pas si c'est sa femme. Est-ce que c'est son fils qui, bon, il disait, lui, être mort de chagrin. Mais peut-être qu'il est mort parce qu'il était rongé par les remords. On ne sait point. Mais où est-ce que c'était M. Pierrot? Ou est-ce que c'était peut-être quelqu'un d'autre complètement? On ne sait pas. Ou il y a peut-être eu erreur aussi sur l'autopsie. C'était peut-être pas un meurtre parce qu'on n'a aucun détail. Mais bref, il faut prendre pour acquis que c'est un homicide parce que l'histoire le dit de ce qui a été fait ou écrit à cette époque-là. Alors voilà, c'était notre premier ou nos premiers meurtres non élucidés. Dans la prochaine émission, je vais essayer de condenser, parce que la problématique, évidemment, plus qu'on retourne dans le temps, j'ai quand même fouillé, bon, certaines enquêtes de coroner, tout ça pour essayer d'en savoir plus. Des fois, on a juste le nom de la victime, la date, et c'est à peu près tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de matière pour plusieurs cas. Plusieurs dossiers sont assez minces. Alors, c'est pour ça que je vais les regrouper dans la prochaine émission, jusqu'à ce qu'on en arrive à un cas plus étoffé. Puis là, après ça, on pourra faire des émissions sur chaque cas. Évidemment, je ne sais pas combien d'émissions que ça va donner. Mais, bon, bref, on va y aller. On va y aller un à la fois. Et puis, on verra si j'en découvre qui n'ont pas été découverts jusqu'à maintenant. C'était pas mon but. Moi, mon but, c'était de toutes les répertorier le plus possible. Il m'en reste probablement encore à trouver. Je suis pas mal certain. parce qu'il y a des périodes, je vous expliquerai pourquoi. C'est une aventure qu'on a ensemble, donc je ne peux pas tout vous dire dans le premier épisode. Alors voilà, ça va être, je pense, une belle aventure. Et puis, bon, ça suscite la curiosité aussi, puis c'est bon, de tenir cette petite flamme-là de la curiosité allumée constamment, ou du moins le plus souvent possible. Alors, voilà, c'était le premier épisode de Non Élucidé. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des commentaires, ben écrivez-moi. On verra si vous avez d'autres informations, que vous soyez spécialiste en généalogie, en recherche, en n'importe quoi. Ou si vous avez des cas aussi non résolus à me soumettre, qui soient plus récents. Parce que là on a parlé des premiers là, en 1600 quelques. En Nouvelle-France, mais on va arriver jusqu'à aujourd'hui. Là. Craignez rien, on va toutes les passer. Moi, j'ai aucune limite de temps. Donc, que ce soit en 1632 ou en 2023, eh bien, tous les cas non résolus sont les bienvenus. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Bye, bonne journée.